mois de
vacances. Je ne trouve pas scolaire dans vos contacts.
Je ne trouve pas scolaire dans vos voulez-vous appeler.
Est-ce que ça marche? Les études littéraires traditionnelles se concentrent sur quelques textes à la fois, mais de nouveaux outils numériques permettent aux chercheurs et chercheuses d'explorer des masses énormes de romans et de poèmes qu'ils et elles ne seraient jamais en mesure de lire en une vie. Toutefois, on reproche à ces méthodes de perdre de vue la littérarité de leur objet d'étude. Aujourd'hui, Param Aledavoud nous parle de lecture télescopique, une méthodologie de recherche appliquée à la littérature qui combine lecture distante et lecture rapprochée. Les travaux de Param se situent à la croisée des méthodes qualitatives et quantitatives. C'est un processus itératif à l'intersection des disciplines. Bienvenue à...
Scolaire.
Théorie dysfonctionnelle.
Une balade de diffusion qui nous explique
que la théorie ne sert
à rien,
mais qu'elle a le mérite
de nous faire perdre beaucoup
de temps.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Scolaire. Avec nous aujourd'hui, nous avons Param Aledavoud qui va nous parler de lecture télescopique. Param, veux-tu te présenter?
Oui, bonjour, je m'appelle Param Aledavoud et je suis doctorant en littérature et humanité numérique à l'Université de Montréal et je suis également le directeur adjoint de Digital Humanities Summer Institute ou DHSI.
Merci Param. La première question que l'on pose à tous nos invités, c'est de définir un concept théorique. Et le tien, la lecture télescopique, c'en est un qui est proche de ta recherche, si je me rappelle bien. C'en est un sur lequel tu travailles même dans le cadre de ta thèse. Peux-tu nous en parler?
Oui, bien sûr. Donc d'abord, avant de répondre à cette question-là, je dois faire quelques précisions. D'abord, je dois dire que cette notion de lecture télescopique et cette terminologie n'est pas la seule terminologie acceptée par tout le monde. Donc ici, on parle de la lecture télescopique, mais on parle également de la lecture dialectique, et lecture en milieu, et beaucoup plus de terminologie, et surtout dans le monde littéraire anglophone. On parle de middle reading, mid-range reading, parallax reading, donc il y a beaucoup de terminologie. Donc, on adopte et on choisit la lecture télescopique parce que je pense que c'est aussi une belle métaphore pour ce dont on parle. Encore une autre précision, c'est qu'aujourd'hui, on parle plutôt et on est ancré dans le monde littéraire et l'analyse computationnelle littéraire. Parce qu'on peut bien parler de cette méthodologie-là dans d'autres mondes, surtout en sciences humaines, mais aujourd'hui, on est dans le monde littéraire. OK, après cette longue introduction, je vais commencer à répondre à ta question. C'est quoi la lecture télescopique? La lecture télescopique, c'est une lecture ou plutôt une méthode d'analyse qui rapproche deux sortes de lectures. D'abord, la lecture rapprochée ou la lecture de près, qu'on appelle « close reading », et la lecture distante ou la lecture à distance ou la lecture de loin. On a encore de différents termes parce que c'est encore une traduction d'un terme anglais, distant reading. Donc la lecture télescopique, c'est une méthodologie mixte basée sur ces deux méthodes-là.
La lecture rapprochée, les littéraires la connaissent bien. Par contre, peut-être qu'ils ne sont pas trop au courant de qu'est-ce que c'est que la lecture distante. Moi-même, j'y travaille un peu, donc je sais que c'est un terme qui a été mis d'avant par Franco Moretti. Mais pour les gens à l'extérieur qui ne sont pas dans le domaine des humanités numériques ou dans le domaine de la littérature computationnelle, peux-tu nous décrire ce que c'est?
OK, bien sûr. Je vais quand même commencer par donner une définition de la lecture rapprochée, parce que c'est sur cette notion-là et basé sur cette notion-là que Moretti, pour la première fois, a parlé de la lecture distante. D'abord, une introduction très brève à cette notion de lecture rapprochée. C'est une méthode d'analyse textuelle qui privilégie l'attention portée aux détails internes d'un texte littéraire. Son langage, sa structure, ses images, ses thèmes et ses nuances de sens. Donc ici, on s'en fout vraiment du contexte de l'auteur ou de l'autrice. Et ce qui est important pour nous, c'est vraiment le texte. Donc, c'est dans les années 2000, au début des années 2000, que Franco Moretti a introduit cette notion de lecture distante comme une réponse aux limites de la lecture rapprochée. Donc, il a dit que tandis que la lecture rapprochée examine un texte ou un ensemble de textes avec une précision chirurgicale, la lecture distante s'emploie à analyser de grands volumes de textes, cherchant des modèles et des tendances à travers de vastes corpus littéraires. Donc ici, il y a vraiment la question de taille. Donc avant, on parlait d'un texte, de 5 textes, de 10 textes, mais avec la lecture distante, on parle de 100 textes, 1000 textes, même 10 000 textes en même temps, dans le même corpus. Ce qui est intéressant, c'est que quand il parle pour la première fois de la lecture distante, il ne mentionne pas le mot numérique. Donc pour lui, c'était vraiment une lecture statistique de large corpus littéraire. Mais après quelques années, lui et bien d'autres théoriciens de littérature ont parlé d'utiliser des méthodes computationnelles, de l'analyse textuelle assistée par ordinateur, parce que ça peut nous donner des idées de l'histoire de la littérature qui avant n'était pas là. Donc là, on a cette opportunité. Donc c'est quoi l'avantage d'adopter cette méthode-là? C'est vraiment d'éviter la tendance à se concentrer sur une petite sélection de textes qu'on appelle le canon. Et donc avec la lecture distante, c'est possible d'inclure aussi des textes littéraires aujourd'hui oubliés. Par exemple, quand on parle de la littérature française du 19e siècle, tout le monde connaît les œuvres de Flaubert, de Balzac, de Stendhal, mais il y a des centaines, même de milliers d'auteurs et d'autrices dont les œuvres sont maintenant oubliées. Donc c'est la possibilité, vraiment l'opportunité d'étudier ces textes-là. Et il y a aussi un autre avantage, mais c'est aussi problématique. On dit qu'avec la lecture distante, on peut garantir une plus grande objectivité. Mais ici, on entre dans le domaine des sciences pures et on oublie un peu les sciences humaines. Donc, au début, c'était une tendance d'aller plutôt vers des sciences sociales. Donc, en sciences sociales, on parle des méthodes quantitatives et des méthodes qualitatives. Donc, une méthodologie mixte dans le contexte des sciences sociales, c'est d'utiliser ces deux méthodes-là en même temps. Mais en sciences humaines, ce n'était pas si populaire que ça. Il existait même avant l'année 2000 où Moretti parlait de la lecture distante. Mais là, on essaye d'aller vers les sciences sociales et d'adopter ces méthodes-là qui n'étaient pas très populaires en sciences humaines avant.
Et en quelques mots, peux-tu nous décrire le genre de méthodes computationnelles qui sont utilisées? Quels sont les outils qui sont à ta disposition et d'où viennent-ils?
Tu veux dire pour cette lecture télescopique. Donc, pour la lecture télescopique, je vais quand même parler un peu du processus de cette lecture-là. Donc, comment on fait une lecture télescopique? Bien évidemment, je ne suis pas la première personne qui parle de cette méthodologie-là. Donc, il y a bien des chercheurs et des chercheuses qui ont parlé de cette méthodologie et qui ont adopté cette méthodologie-là dans leur œuvre. Donc, il y a plusieurs façons de mener ce genre d'analyse. Mais pour moi, le processus, je vais parler plutôt de méthodes dont Andrew Piper discute dans son œuvre et qu'il appelle l'herméneutique computationnelle. Donc, sa méthodologie proposée consiste en un processus itératif. Et ça, c'est vraiment un mot clé, itératif et itération, entre lecture distante et lecture rapprochée. Un acte circulaire d'herméneutique qui se déplace d'une hypothèse basée sur la lecture rapprochée d'un texte, puis met l'hypothèse à l'épreuve par la lecture distante pour être suivie dans ce que Piper décrit comme une manière oscillatoire ou en spirale ou itération par la lecture rapprochée d'un échantillon à fort score issu de corpus ou l'étape de découverte ou validation. Et on continue comme ça. Donc, on commence avec une question, on continue, on fait la lecture distante, on revient à nos textes, on revient plutôt à nos anomalies, on fait un remodélage Et après, ça continue jusqu'à ce qu'on a une réponse à notre question.
Donc, tu utilises la lecture télescopique dans ton propre travail. Comme tu l'as mentionné, d'autres personnes le font également. Peux-tu nous donner un exemple de résultat ou de méthode que tu as toi-même implémenté?
Oui, bien sûr. Donc, d'abord, je vais commencer avec l'exemple d'Andrew Piper dont je viens de parler. Donc, dans son œuvre et dans sa recherche, il appuie sur les confessions de Saint Augustin. Et il voit qu'au fur et à mesure que Saint Augustin écrit ses confessions, qui comportent plusieurs tomes, je crois 14, on voit des tendances qui varient et qui changent, surtout au niveau de style. Donc, il fait une analyse computationnelle, analyse textuelle sur l'œuvre de Saint Augustin. Et il voit qu'il y a un point de conversion, comme il l'appelle, un point de conversion quelque part au milieu du 8e tome. Je ne me souviens pas du tome exact, mais je donne un exemple. Et il voit qu'au niveau de style, on a tendance à une autre œuvre. Et il lui semble que c'est un autre auteur même qui a écrit ces autres tomes-là. Donc, il tire la conclusion qu'on peut adapter cette méthode-là pour étudier un vaste corpus. Donc, il compile d'abord un corpus de 150 romans du 19e siècle dans plusieurs langues, anglais, français et allemand, et il essaye d'adapter ces méthodes-là pour voir s'il y a des points de conversion dans ces romans-là et si il y a ce point de conversion, ça ressemble à quoi et pourquoi ça a lieu dans ces romans-là. Okay. C'est juste un exemple que j'ai expliqué très rapidement. Dans ma propre recherche, je travaille surtout sur les romans contemporains, sur la migration. Donc, pour moi, cette idée de conversion était très intéressante parce que les immigrants, quand ils partent d'un pays et ils arrivent dans un autre pays, ils expérimentent et ils ont cette expérience de conversion. Leur monde est chamboulé vraiment. Donc, pour moi, c'était important de voir comment cette notion-là fonctionne dans le contexte de ces romans-là. Mon point de départ, c'était la notion de traumatisme, et je pense que c'est une notion familière quand même, la notion de traumatisme. Et le traumatisme est un symptôme très récurrent dans le contexte d'immigration, parce qu'on entre dans un monde qui nous est étranger. Le traumatisme vient avec quelques symptômes. Un symptôme, c'est des cauchemars. Et là, j'essaie d'expliquer le processus de modélisation et comment j'ai réfléchi à cette question-là. Donc, le traumatisme vient avec des cauchemars. Des cauchemars dans un contexte littéraire se manifestent à travers, entre autres, des répétitions au niveau de langage. Donc, un cauchemar qui se répète dans un roman. Un personnage traumatisé qui a, d'une façon récurrente, ces cauchemars-là. Donc, et ça aboutit à des répétitions. Donc, j'ai essayé de détecter ces répétitions dans un corpus de romans sur la migration avec des méthodes d'analyse textuelle. Un exemple simple, c'est Voyant Tools, qui est une série d'outils qui nous permet de faire des analyses comme la fréquence des mots ou la concordance sur un corpus. Ça peut être des textes littéraires ou n'importe quel genre de texte. Et j'ai essayé de voir comment ces répétitions se manifestent dans mon corpus de romans. Donc, ma question de départ, ça c'est le point de plutôt de la lecture rapprochée, c'était le traumatisme se manifeste à travers des répétitions et stylistiques. Ça, c'était la question. Après, j'ai fait la lecture distante, donc j'ai essayé de détecter ces répétitions. Après, je suis revenu à la lecture rapprochée. J'ai choisi quelques exemples, surtout des anomalies, donc les exemples où on avait beaucoup de répétitions d'une manière qui ne ressemblait pas à d'autres romans inclus dans le corpus. Je les ai étudiés avec cette méthodologie de la lecture rapprochée pour voir si ces répétitions-là sont vraiment liées au traumatisme. Dans certains cas, ils étaient liés, dans d'autres cas, ils n'étaient pas liés. Donc, j'ai raffiné mon modèle ici et j'ai fait de nouveau la lecture distante. Et j'ai eu encore des résultats, j'ai fait de nouveau la lecture rapprochée et j'ai fait des allers-retours. Je ne vous dis pas des résultats, je ne parle pas des résultats aujourd'hui parce que c'est un projet qui est toujours en cours, bien évidemment. C'est mon projet de doctorat et c'est une partie de ça. Mais ça nous donne, je pense, une image de comment cette méthodologie de la lecture télescopique ou la lecture dialectique peut fonctionner.
Plus tôt, tu as mentionné que les outils de la lecture télescopique sont utilisés dans d'autres domaines que la littérature. Et aussi, il y avait un certain besoin de rester littéraire dans ce que l'on fait. Alors là, tu es là en train d'utiliser des outils de la psychologie, des outils informatiques. Est-ce que tu veux parler de ton processus pour retourner toujours à la littérature, malgré le fait qu'on utilise des méthodes, des paradigmes de pensée qui sont complètement à l'opposé de ce qu'on fait, qui ne sont pas artistiques, qui sont même parfois scientifiques?
Oui, exact. Parce que la lecture rapprochée vient des années 1930 et surtout c'est un mouvement qui a commencé en Angleterre à Cambridge qu'on appelait New Criticism. Et là, l'emphase était vraiment sur la littérature et la poésie. Mais on sait qu'après, d'autres mouvements littéraires ont commencé à engager d'autres disciplines et d'autres théories. Je viens de parler, par exemple, de traumatisme. Donc, il y a cette théorie de trauma theory ou théorie de traumatisme qui a commencé dans les années 90 à faire entrer les méthodes de psychologie dans la littérature. Avant, on parlait bien évidemment de psychanalyse en études littéraires, on connaissait Freud. Mais là, on a essayé de combiner ça avec vraiment une partie plus psychologique de traumatisme. Donc, c'est maintenant accepté qu'on utilise des méthodes qui viennent d'autres disciplines en études littéraires. Mais là, mon point sur les études littéraires, c'était de rester avec une méthodologie ancrée dans les études littéraires. Donc, on peut utiliser des théories qui sont basées sur d'autres disciplines, mais notre méthodologie, à la fin, doit revenir vers les études littéraires. Donc, parce qu'il y a toujours cette tendance d'aller plutôt vers les sciences sociales. Donc, si, par exemple, un exemple tiré des sciences sociales, à la place d'étudier des romans sur la migration, on peut bien étudier les interviews faites avec des migrants. On peut analyser des réseaux sociaux et des posts qui ont été faits à propos des migrants et par des migrants. Donc, ce sont tous des études qui sont 100% valides et faisables, mais je pense qu'ils ne sont pas vraiment ancrés en études littéraires. Donc, c'est là mon point sur les études littéraires.
Donc, la lecture distante, il me semble, t'engage dans une méthodologie qui est très héritière du structuralisme et dans une vision très formelle du texte. Est-ce que, justement, revenir à la lecture rapprochée te permet de prendre un peu plus de distance et de considérer d'autres filtres et d'autres prismes de lecture qui ne seraient pas seulement la structure de la langue ?
Je pense que ça dépend de notre interprétation de la lecture rapprochée. Donc, comme j'ai expliqué, la lecture rapprochée a un background très défini en études littéraires des années 1930. Donc là, on étudiait le langage avec une méthodologie et une précision chirurgicale. Donc, on écrivait des paragraphe sur un mot et pourquoi ce mot-là a été utilisé dans ce texte-là et pas un autre mot. Mais là, quand on parle de la lecture rapprochée, et c'est une méthodologie qui est toujours utilisée dans les départements de littérature, surtout dans le monde anglophone, donc on connaît bien la lecture rapprochée dans cette définition-là. Mais je pense que maintenant, il y a un malentendu de ce qui est la lecture rapprochée. Donc, je vois que plusieurs chercheurs et chercheuses parlent d'avoir adopté cette lecture rapprochée dans leur œuvre, Mais quand on examine comment cette méthodologie a été utilisée, on voit que pour eux, c'est vraiment une confusion entre la lecture rapprochée telle qu'elle a été définie dans le monde littéraire anglophone de New Criticism et une analyse ou juste une interprétation de nos données. Donc, ils disent que oui, on a fait une lecture distante, on a ces résultats-là. Donc, ça nous donne ces interprétations. Donc, on voit que, par exemple, il y avait une tendance d'utiliser les mots liés à la révolution industrielle dans les romans, dans un grand corpus de romans du 19e siècle. Donc, on voit que les auteurs ont commencé à faire l'attention à ce qui s'est passé dans la société. Donc, on tire ces résultats-là après avoir fait cette lecture distante. Donc, je pense que c'est cette sorte de malentendu qui ne nous permet pas vraiment de dire que oui, la lecture rapprochée, ça nous permet d'aller plus loin que cette lecture formaliste ou structuraliste. C'est une très bonne question, mais je pense que la réponse est un peu plus compliquée et ça diffère dans deux cas différents.
Comment la lecture télescopique s'inscrit-elle dans la scolaire? Comment nous permet-elle de mieux dysfonctionner?
C'est une très belle question. D'abord, je vais commencer avec les problèmes que j'envisage avec la lecture distante et des raisonnements. Je ne suis pas vraiment contre la lecture distante, mais je pense que ça doit être utilisé dans une manière réfléchie, surtout dans notre monde actuel, dont je vais parler dans quelques instants. Mais d'abord, je vais parler d'une critique par Guillaume Carbou dans un article de 2017, où il parle de trois raisons contre l'analyse textuelle sur de grands corpus numériques. Donc, il parle de la non-nécessité, de l'impossibilité et de la constitution de corpus. Donc, je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails de ce qu'il parle, mais le premier argument est que l'analyse de grands corpus n'est pas toujours nécessaire, car un échantillon représentatif peut souvent suffire, particulièrement lorsque l'ajout de données ne fait qu'augmenter la redondance et la généralité sans apporter de nouvelles informations significatives. Donc, ici, il parle contre avoir un corpus de 10 000 romans quand on peut bien répondre à une telle question de recherche avec un corpus qui comporte seulement 100 romans. Donc, le second argument, ou l'argument sur l'impossibilité, suggère que l'incapacité de traiter de manière exhaustive de grands corpus ne justifie pas forcément l'emploi de méthodes inappropriées et appelle à une certaine retenue dans l'exploitation de ces données massives. Et le troisième argument, argument sur les corpus, souligne l'importance de la démarche scientifique dans la construction d'un corpus, affirmant qu'un corpus doit être une collection délibérément constituée avec des objectifs clairs et des contrôles méthodologiques, plutôt qu'un simple amas de données. Et c'est une tâche très compliquée, surtout quand on a un grand corpus qui comporte 1000 ou 2000 romans. Et c'est pour ça qu'on parle plutôt d'une méthodologie mixte et de la lecture télescopique, pas seulement comme un mélange de la lecture rapprochée et la lecture distante, mais aussi on parle d'avoir des corpus en milieu. Ça veut dire quoi? Des corpus qui ne sont pas si petits comme les corpus qu'on utilise souvent en études littéraires, qui comportent par exemple 10 romans, et les grands corpus qui comportent 10 000 romans. Donc, on parle des corpus qui sont en milieu. Mais l'autre point important dans cet argument pour une méthodologie mixte en sciences humaines, en analyse littéraire et en études littéraires computationnelles, et je veux revenir ici à Carbou encore qui a dit que les logiciels n'analysent pas au sens des sciences humaines et sociales. Ils ne font que présenter des caractéristiques et statistiques. Il appartient donc à l'analyste de montrer la pertinence de ces caractéristiques dans une démarche d'analyse de son corpus et de montrer ce que ces caractéristiques nous disent du sens des textes qu'il étudie. Et là, je veux revenir à une autre notion, notion d'alien reading ou lecture extraterrestre ou lecture étrangère. Donc, c'est Jeffrey Binder qui définit cette notion et il dit qu'il faut accepter que les machines ne pensent pas de la même manière que nous. Donc, quand on utilise des machines et des méthodes statistiques pour étudier les œuvres littéraires, il faut porter ça en tête que ce ne sont pas des personnes qui font ces études pour nous. Et je pense que c'est surtout très important dans ce point historique, dans ce moment historique en 2025, quand on a des modèles larges de langage, des LLM qui sont partout, et on voit cette tendance d'utiliser ces outils-là sans vraiment réfléchir à leur biais dans des études littéraires. Donc, on demande à ces outils-là de faire la recherche pour nous. Et je pense qu'ici, on voit l'importance de la lecture télescopique parce que ça nous permet de vraiment ralentir nos recherches. Ça nous permet de, si on travaille sur un grand corpus, ça nous permet de vraiment s'engager avec des textes d'une façon plus détaillée, d'une façon attentive. Et c'est pour ça qu'on appelle aussi la lecture rapprochée, la lecture attentive, parce qu'on porte attention sur nos textes littéraires. Donc, je pense que c'est très important. Une autre importance pour cette notion de dysfonctionnement, quand on parle de la méthodologie mixte, je pense que c'est une façon d'ouvrir les portes de collaboration. Parce que quand on adopte cette méthodologie mixte, ce n'est pas vraiment juste de demander à une personne de faire tout, de demander à une personne, un homme de lettres ou une femme de lettres, de faire tout, de faire l'analyse assistée par l'ordinateur et puis faire la lecture rapprochée et de compiler le corpus. Mais si on part de la collaboration et si on revient ou si on interprète cette lecture télescopique comme une façon de collaboration, donc ça nous permet de faire des recherches un peu plus interdisciplinaires et encore, ça nous permet de ralentir nos procédures de recherche.
Je poserai une question supplémentaire par rapport au processus itératif qui a lieu lorsqu'on a un modèle. Qu'est-ce que, par exemple, dans ton cas, le trauma, dans le cas de Piper, la conversion religieuse? Dans la propre pratique, ce processus itératif est une série de bugs successifs que je trouve très dysfonctionnel moi-même. Est-ce que tu as eu la même expérience ou est-ce que encore et encore, il faut raffiner un modèle qui ne veut pas se conformer à la réalité ni au texte littéraire?
Exact, oui. Donc, par exemple, Piper, il parle de cette étape de validation au sens de l'informatique, parce que c'est une étape qui est très importante dans les recherches menées en informatique et en sciences des données. Mais ce n'est pas ce qu'on fait en études littéraires normalement. Je pense qu'encore, si on revient à cette itération, c'est vraiment important d'accepter que l'analyse textuelle assistée par l'ordinateur vient avec des bugs. Donc, il faut accepter ces bugs-là dans le domaine littéraire. Il faut vraiment changer la façon dont on pense à une œuvre littéraire. Donc, si on accepte, parce qu'on normalement, on accepte une œuvre littéraire telle qu'elle, surtout quand on fait une analyse. Mais quand on accepte qu'il y a aussi des bugs qui viennent avec, des bugs qui sont ancrés plutôt dans notre méthodologie, ça nous permet d'aller dans des directions très intéressantes. Donc, je pense que c'est une façon très intéressante de mener nos recherches ou de faire une révolution dans nos recherches en études littéraires.
Merci beaucoup, Param. Ce fut un grand plaisir de t'avoir à Scholé. Ça faisait longtemps que je voulais que tu enregistres un épisode avec nous. À tout le monde à la maison, je vous propose d'aller voir DHSI, le Digital Summer Institute, qui aura lieu cet été. Les cours sont ouverts pour ceux et celles qui aimeraient en apprendre plus sur les humanités numériques. Et Param fait un travail super d'organisation à ce niveau-là. Merci.
Merci à vous deux.
Merci.
Merci d'avoir écouté Scolet, une balade aux diffusions proposée par la Chaire des recherches du Canada sur les écritures numériques. Nous espérons que vous ne retrouverez pas les temps perdus, mais que vous continuerez à en perdre encore, en nous suivant sur scolet.écriturenumérique.ca, S-K-H-O-L-E, écriturenumérique au pluriel.ca, et en écoutant nos prochains épisodes.